Alors, ces résultats du bac, vous les avez et sont-ils provisoires ou définitifs? Car aujourd'hui, 5 juillet, jour des résultats du bac 2019, tous ne sont pas connus de manière certaine. Conséquence du bras de fer qui oppose le ministre de l'Éducation nationale à une partie des enseignants qui ne veulent pas de la réforme du bac et du lycée. Les professeurs les plus déterminés ont trouvé cet ultime moyen de pression pour tenter d'obtenir des négociations. Perturber les résultats de l'examen en refusant de communiquer les notes aux grandes dames de certains parents, comme ceux de la PEP, pour qui les élèves sont pris en otage. Fin de citation. Face à cette fronde inédite, Jean-Michel Blanquer a évoqué des solutions techniques pour que tous les candidats aient leurs résultats en temps et en heure. Mais force est de constater que ces solutions dites techniques ont provoqué un état de crise au sein de certains jurys et qu'elles n'ont pas convaincu tout le monde. C'est le moins que l'on puisse dire. Certains enseignants ont fait part de leur désarroi. Alors ce soir, on va tenter de faire le point et de répondre aux questions que vous poser, notamment pour ceux qui doivent aller passer l'oral de rattrapage lundi. Au fait, comment être sûr de devoir le passer? 3 invités à mes côtés dans ce studio ce soir pour parler de tous ces sujets. Jean-Marc Huard, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale. Sophie Vénétité, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire générale adjointe du SNES FSU. Et Rodrigo Arenas, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Co-président de la Fédération des parents d'élèves FCPE. Un numéro de téléphone toujours le même pour nous appeler, le 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et il y a du monde ce soir au standard de France Inter. Il y a même presque un embouteillage. Sylvain nous appelle d'Evry. Bonsoir Sylvain.
Oui, bonsoir. Je suis un peu intimidé.
Non. On est entre nous. Allez-y.
Vous,
il n'y a pas de souci.
Voilà. Écoutez,
dites-nous d'abord, vous êtes enseignant, Sylvain? Vous êtes dans un jury?
Je suis professeur de philosophie et j'étais dans un jury à l'établissement François Truffaut de Bondoufle, à côté d'Evry. Matin, à 8h30, nous avons attendu assez longuement, et à 9h30, une personne qui ne s'est d'ailleurs pas présentée, ou alors je n'ai pas compris, m'a désigné brutalement, je dirais, comme président adjoint du jury. voilà, j'étais très intimidé, je n'avais évidemment absolument pas été convoqué administrativement pour cette fonction. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que je n'ai signé, en tout cas, on ne m'a demandé aucunement de signer un document comme quoi j'étais en effet président adjoint de jury. Alors, président adjoint de jury, ça signifie que c'était à moi de gérer les collègues, puisque le président de jury, c'était le directeur d'établissement, et je me suis retrouvé devant mes collègues à expliquer un document qu'on m'a mis entre les mains, qui était le document administratif ministériel présentait les procédures de remplacement des notes manquantes par, la moyenne annuelle du candidat si on avait accès à son dossier scolaire via Internet, soit s'il n'avait pas de dossier scolaire, ce qui peut arriver pour des redoublants ou des candidats libres, eh bien, on devait mettre en guise de notes, eh bien, la moyenne des autres notes reçues à l'épreuve du bac.
C'était pas très simple, hein, si je vous entends bien, Sylvain.
C'est franchement pas simple. Et puis, mes collègues à qui j'ai présenté cette solution, évidemment, se sont retournés contre moi de façon assez agressive, mais je ne faisais que leur présenter ce qui m'avait été transmis comme obligation, on va dire, administrative.
Voilà. Et finalement, alors?
Alors finalement, écoutez, nous étions 4 jurys dans cet établissement. Hein. Nous avons discuté avec les autres présidents de jury. En définitive, ce qui a été accepté par les 4 jurys présents, c'était 1. De traiter, en effet, comme d'habitude, les cas des candidats qui disposaient de leur totalité de notes. Voilà. Pour mon jury, ça a été très rapide parce qu'il y avait 4 grévistes, entre guillemets, donc nous n'avons pu traiter, je crois, qu'à peu près un tiers ou un quart des candidats. Voilà. Et en deuxième partie, pour les 4 jurys, nous avons refusé de cautionner les directives du ministère exigeant les remplacements des notes manquantes par ce que je viens de vous dire. Nous avons donc fait seulement la moitié, entre guillemets, de notre travail.
Ça veut dire qu'il y a donc la moitié des résultats pour lesquels il est marqué provisoire.
Quand je dis la moitié de notre travail, c'est pas une proportion des candidats que nous avons traités, parce que, comme je vous ai dit, moi, étant dans mon jury, il y avait quatre absents, quatre, je dirais, rétentionnistes des notes. Pour notre jury, je pense qu'on a dû traiter à peu près qu'un tiers des candidats. Mais ce que je voudrais vous dire ensuite...
Si vous pouviez accélérer un tout petit peu, Sylvain, parce que il y a beaucoup de monde qui appelle ce soir. En gros, dites-nous, donc, vous n'avez pas pu délibérer, enfin, vous n'avez pas délibéré sur tout, et vous n'avez pas tous les résultats. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous allez, siéger ce week-end? Comment ça va se passer?
Surtout, ce qui est important, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'administration, c'est-à-dire le proviseur, avec sa secrétaire, qui ont traité les cas des candidats pour lesquels nous n'avions pas toutes les notes.
Ah bon ?
On est d'accord.
D'accord,
voilà.
Ok. C'est voilà. Comme ça que ça s'est terminé.
Et donc, nous, en jury, nous n'avons pas pu, évidemment, signer les protocoles. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que, et là, j'aimerais bien aussi qu'il y ait des réactions, peut-être un questionnement auprès des personnes présentes auprès de vous. La deuxième chose, c'est que dans mon jury, certaines personnes, certains collègues m'ont dit que, alors qu'ils ne sont pas grévistes, hein, qu'ils n'étaient pas grévistes puisqu'ils étaient là, certaines personnes m'ont dit que dans cette condition, ils n'accepteraient pas de faire passer les oraux de rattrapage.
D'accord,
voilà.
Donc il y aura peut-être des soucis lundi, c'est ça.
Il y a l'hypothèse que lundi, mardi, mercredi, il y ait encore d'autres problèmes qui s'ajoutent à ceux que j'ai essayé de vous résumer.
Bah vous nous avez bien résumé.
À cet instant. Voilà.
Merci beaucoup Sylvain.
Merci à vous.
Merci pour cette entrée en matière, Jean-Marc Huard. Gros cafouillage quand même.
Moi je voudrais, enfin, aux ordres qui ont pu être donnés. Effectivement ce qu'indique ce monsieur et je pourrais effectivement répondre sur différents aspects. Moi je voudrais quand même rappeler la raison pour laquelle on a eu ces difficultés hier. Alors on a eu des difficultés dans une centaine de centres de délibération sur un peu plus de 1500 en France. Hein. Centres de délibération, c'est là où se réunissent les jurys. On a eu d'ailleurs des difficultés dans quelques académies et dans une majorité d'académies.
Il y a quand même beaucoup de témoignages qui vont dans le sens de ce que nous dit Sylvain.
Je ne vous dis pas le contraire. Pourquoi on en est là? Parce que les notes des copies devaient être rentrées mardi 2 juillet à 12h, je crois. Enfin, ça pouvait dépendre selon les académies. Compte tenu du mouvement de grève de 2000 correcteurs sur les 177 000 correcteurs, inévitablement, nous étions dans une situation de blocage. À quoi nous sommes-nous engagés? Nous sommes engagés à ce que les élèves aient un résultat aujourd'hui. Parce que la vraie inégalité, elle était que des élèves aujourd'hui aient un résultat et d'autres élèves n'en aient pas. Ça, c'était la vraie inégalité.
Oui, mais si le résultat n'est pas certain,
alors, qu'est-ce qui va se passer?
C'est pas un résultat.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les notes, mais votre auditeur l'a dit, hein, donc il pouvait manquer une note parce que effectivement un correcteur était gréviste. Il est habituel dans les jurys de regarder les livrets scolaires, c'est même quasiment obligatoire. Donc nous avons demandé, et c'est assez cohérent, et c'est généralement généralement les résultats des examens sont assez cohérents avec les résultats de l'année. Ils peuvent varier évidemment, mais ils sont assez cohérents. Donc nous avons demandé que la note du bulletin puisse être apposée parce que c'était la meilleure solution, c'était la moins mauvaise. En tout cas, c'était celle qui permettait à tous les élèves d'avoir un résultat. Voilà.
Vous comprenez que certains enseignants aient du mal à faire ça, alors qu'il y a des règles quand même pour le baccalauréat?
Nous avons un devoir qui est d'assurer la continuité du service public. On pouvait continuer comme ça longtemps, hein. On pouvait continuer comme ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. On a 740 000 candidats derrière. Donc notre devoir absolu, c'était de leur permettre d'avoir des résultats aux examens et de pouvoir passer des vacances et ensuite intégrer l'enseignement supérieur.
Sophie Vénétité, vous qui êtes au SNES-FSU, ce qu'a dit Sylvain, c'est quelque chose que vous entendez des remontées de terrain. Et est-ce que vous avez à peu près les mêmes chiffres que viennent de nous donner Jean-Marc Huard sur le nombre de jurys concernés?
Alors c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu hier matin. Toute la matinée, nous avons eu des retours de ce type-là de l'ensemble de la France. On n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Hein. C'est pas une centaine de jurys qui sont concernés, c'est bien plus.
Les deux centres.
Avec des témoignages qui montrent que les annonces de Jean-Michel Blanquer la veille ont davantage contribué à mettre de l'huile sur le feu plutôt qu'à apaiser la situation. Parce que ce soit des collègues grévistes ou non grévistes, tous ont très mal pris, finalement, quelque part, la remise en cause de leur travail d'évaluation. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, comme l'a dit le collègue, et on leur a dit, bah, finalement, tout ce que vous avez fait, il va falloir faire autrement. Il va falloir mettre une note, on ne sait pas trop comment. Et d'ailleurs, il y a eu des consignes qui ont été données, mais nous, le bilan qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on a vu nos élèves, et donc on a vu les collantes ce matin, c'est que ça n'a pas forcément été la moyenne annuelle. On a des élèves qui ont une moyenne annuelle sur leur livret scolaire, et pourtant, quand il y a une copie qui manque, il y a la note de 10. Donc il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de colère. Je pense qu'il faut prendre la mesure de la colère des enseignants, qu'ils soient grévistes ou non grévistes, une forme de dégoût aussi, parce que c'est le cœur de leur métier qui a été attaqué. Et puisqu'on parlait des élèves, il est indispensable de parler d'eux aussi. Vous avez parlé d'inégalité. Aujourd'hui, il faut bien voir qu'effectivement, tous les élèves ont un résultat, mais quel résultat ? Quelle est la teneur exacte du résultat quand sur la collante s'affichent des notes qui ne correspondent pas qui ne correspondent pas aux épreuves qu'ils ont passées en fonction du lieu, en fonction du jury, en fonction du lycée. Certains élèves ont été évalués sur l'épreuve qu'ils ont passée il y a 15 jours, d'autres élèves ont été évalués sur l'année, d'autres élèves ont été évalués on ne sait pas comment. En fait, ce qu'on voit apparaître, c'est des inégalités très importantes à travers le recours au contrôle continu et quelque part, ce n'est ni plus ni moins que la préfiguration du bac Blanquer en 2021.
Rodrigo Arenas, co-président de la Fédération FCPE de parents d'élèves. Vous partagez le point de vue qu'on vient d'entendre ou pas ?
On compte les points là, vous voyez, c'est un peu compliqué comme exercice pour les parents, c'est-à-dire qu'on est au milieu de deux entités aujourd'hui qui sont censées faire en sorte que l'école se passe bien pour les élèves, de la maternelle au lycée, parce que je tiens à rappeler quand même que les élèves qui passent le bac cette année, ça fait 13 ans qu'ils sont sur les bancs de l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bac sanctionne, ou au contraire, donne le bac à des élèves qui, depuis 13 ans, avec leurs parents, font des efforts dans des territoires en plus en France où c'est plus compliqué qu'ailleurs, pour avoir ce baccalauréat qui leur ouvre les voies du supérieur, c'est-à-dire qui leur ouvre aussi la voie vers leur fonction d'adulte maintenant, puisqu'ils sont majeurs et qu'ils vont s'engager dans l'avenir.
Donc vous regrettez cette situation complètement bloquée ?
Écoutez, nous, ça fait des mois qu'on dénonce cette situation. C'est pas nouveau ce qui est en train de se passer là. Ça fait des mois qu'on a aujourd'hui un fonctionnement du dialogue social qui n'est pas cohérent avec ce qu'est notre pays. Ça fait des mois qu'on dit qu'on est en train d'expliquer les réformes aux gens alors qu'il y a des vraies critiques qui sont là-dessus. D'ailleurs, notre fédération en a fait un certain nombre sur la réforme du lycée et qu'on voit bien le ministère n'a pas trouvé les clés, en fait, pour pouvoir dialoguer avec des enseignants qui, aujourd'hui, sont dans une radicalité évidente et avec une sorte de dialogue de sourds, aujourd'hui, qui se met en place. Et nous, on en a appelé clairement à un arbitrage extérieur. On a appelé hier à l'arbitrage du président de la République pour qu'il y ait des assises de l'éducation qui se mettent en place dans notre pays pour que, moi, j'entends ce que disent les enseignants. Ils disent, nous, on veut dialoguer. Mais le dialogue, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est pas aussi dans une situation où c'est hyper tendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut créer des conditions de dialogue. Mais le dialogue, c'est faire un pas l'un vers l'autre. C'est pas expliquer aux gens qu'ils ont tort d'avoir raison, ou leur dire, de toute façon, vous avez rien compris, ou alors jeter l'invective sur l'administration de l'éducation nationale, ou en gros, ça serait des incompétences, c'est pas la réalité. Donc aujourd'hui, il faut mettre tous les acteurs autour de la table, mais aussi les parents. C'est-à-dire que si dialogue il doit y avoir, les parents, les fédérations doivent aussi être au cœur du dispositif, et je pense qu'aujourd'hui, on est loin de ça, parce que le dialogue, clairement, est vraiment compliqué, voire inexistant.
Ça, c'est certain. Anne est dans l'Essonne, et elle est au bout du fil, elle aussi, et je crois que, Anne, vous êtes prof, professeur, et vous étiez dans un jury, vous aussi, hier ?
Oui, oui. Alors, je ne vais pas tout redétailler la procédure que Sylvain a bien expliqué tout à l'heure. Je me suis retrouvée, moi aussi, à apprendre à 8h30 que j'étais vice-présidente du jury dont j'étais membre. Et j'ai reçu le protocole du ministériel pour remplir les notes en même temps que les autres membres du jury, à peu près 1h30 après le début de l'heure à laquelle le jury aurait dû commencer. Et effectivement, la réaction des collègues était quand même un grand désarroi, presque une désespérance à se dire « mais enfin, comment on nous traite ? Comment on traite les élèves ?» Moi, j'avoue que j'ai entendu à plusieurs reprises sur les ondes Jean-Michel Blanquer dire que les professeurs oubliaient les élèves, ou cette fameuse expression que vous avez reprise, qu'ils les prenaient en otage.
Ça, c'est la PEP, hein.
Oui, oui.
Et oui, on n'est jamais otage à la FCPE, ça c'est sûr. Ouais.
Non, mais en fait, nous, les enseignants, dans les jurys hier, on a pensé essentiellement aux élèves, en refusant effectivement de délibérer dans des conditions qui n'étaient pas réunies pour pouvoir statuer sur le cas des candidats. On nous a convoqués une première fois à 8h30. Avec le chef de centre, on a finalement convenu qu'il était plus raisonnable de se retrouver ce matin à 8h30 où les notes auraient été rentrées entre-temps, parce que je veux bien revenir avec Monsieur Huard sur le pourquoi on en est arrivé là. Effectivement, on en est arrivé là parce que des collègues n'ont pas rentré leurs notes à temps le 2 juillet. Mais pourquoi ils en sont arrivés à cette action-là? C'est parce qu'il y a une exaspération depuis des mois du fait que le ministère n'entend pas demandes et les revendications à propos de ce qui nous est imposé à la rentrée et à nous et aux élèves. Et là, il y a vraiment un grand désarroi. J'ai entendu Jean-Michel Blanquer aujourd'hui dire que sa porte était ouverte aux organisations syndicales et aux autres représentants qui pouvaient publier son calendrier dans la presse. Je n'ai aucun doute là-dessus. La vraie question que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui et que je pose à Monsieur Huard, c'est que quid de ces rencontres? Qu'est-ce qui se passe après? Il y a eu quand même un Conseil supérieur de l'éducation à l'automne qui a fait remonter des remarques sur les programmes. Des programmes qui étaient extrêmement exigeants. Moi, je suis prof de langue. J'ai regardé les programmes de la spécialité dans ma langue. Ça correspond à peu de choses près à un niveau licence. Donc, si je regarde le niveau de mes élèves en première, puisque une spécialité, ça se démarre en première, ça n'est pas possible. N'est juste pas possible. Ma question, c'est ça.
Voilà,
pourquoi on en est arrivé là? Je la pose aussi à Monsieur Huard, cette question. Pourquoi on en est arrivé là? Et est-ce que la vraie priorité, c'était les résultats à tout prix, coûte que coûte, aujourd'hui à 10h, n'importe comment, en exigeant de nous de tripoter des résultats? Ou est-ce que avoir le vrai sens du service public et penser vraiment aux élèves, c'était accepter de faire les choses correctement, peut-être en décalant des résultats, et puis ouvrir des vraies négociations pour répondre aux vraies questions que les enseignants qui sont sur le terrain tous les jours et qui pensent tous les jours à leurs élèves se posent.
Jean-Marc Huard, voilà. Vous répond.
Merci. Encore une fois, moi je voudrais pas qu'on oublie le vrai débat et la raison pour laquelle on en est arrivé là hier. Je l'ai rappelé tout à l'heure.
Je pense que là, Anne, elle a quand même bien dit les choses.
Oui,
là.
Mais je vais le redire. Je vais le redire. La porte du ministre, elle a jamais été fermée. Elle a été ouverte tout le temps. Je viens d'achever dans ma direction toutes les discussions sur la réforme des programmes. Certaines organisations syndicales n'ont pas participé à ces discussions. Elles sont venues aux instances officielles, mais ne sont pas venues à ces discussions. On pourrait regarder de manière précise comment les programmes ont évolué à partir de la grande consultation, les programmes de seconde et de première, là je parlais des programmes de terminale, comment les programmes ont évolué à la suite des discussions. C'est normal, il y a un dialogue social, il est permanent. Il est permanent.
Vous renvoyez tous la balle
lycée,
et qu'on est dans un dialogue sourds.
Écoutez,
là.
Moi, sur la réforme du lycée, ça fait... Vous m'interrogez sur ce qui a été fait, je vous réponds. Sur la réforme du lycée, ça fait 2 ans que les discussions ont été ouvertes. Le ministre a lui-même reçu à plusieurs reprises les organisations syndicales. J'ai moi-même, dans ma direction, reçu à de nombreuses reprises les organisations syndicales. J'ai dû faire à peu près 45 heures, moi-même, de réunions sur les programmes de seconde et de première. Et là, dans la dernière phase, on a des organisations qui ne viennent pas.
Sophie Vénétité du SNES-FSU, vous y êtes allée ou vous n'êtes pas allée?
Alors, il faut effectivement, puisqu'on revient un peu sur les derniers mois et même les dernières années. Vous parlez beaucoup de dialogue social. Si on revient sur les derniers jours, moi je rappellerai juste que le SNES-FSU a demandé à être reçu par Jean-Michel Blanquer ces 15 derniers jours à 2 reprises, que c'est même pas qu'on a eu une réponse négative, c'est que nous n'avons pas eu de réponse. Donc, quand on parle de dialogue social, c'est quand même une expression dont on ne doit pas avoir la même signification. Ensuite, si on remonte à quelques mois en arrière, vous parlez de dialogue, de réunion à laquelle nous avons pu participer. Reste à savoir ce qu'il en est sorti. C'est-à-dire que quand on a pu évoquer les questions de programme, vous évoquez aussi la consultation des enseignants. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti, qui a été retenu de ces consultations. Vous parlez de la réforme du lycée. Vous dites qu'il y a eu un dialogue. Sauf qu'on sait que sur cette réforme du lycée, tout était joué d'avance, puisque ça faisait partie du programme d'Emmanuel Macron, que avant même qu'il soit élu, en tout cas ça nous a été aussi présenté comme ça, ça fait partie du programme présidentiel. L'horizon est celui de 2021 avec un bac qui est l'aboutissement de la nouvelle organisation du lycée, c'est comme cela que cela a été présenté. Et on a fait des remarques, on a fait des remarques, on vous a dit que la carte des spécialités par exemple, telle qu'elle était conçue, était source d'inégalités territoriales, on vous a fait un grand nombre de remarques, le SNES-FSU a mené une analyse précise à partir des statistiques des vœux des élèves, tout cela n'a eu un écho.
La situation est bloquée, c'est exactement ce que vous disiez Rodrigo Arenas.
Là on est clairement dans un rapport de force, on attend le premier qui va craquer, c'est délétère, et moi je tiens à dire quand même que quelle image on renvoie à nos enfants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans notre pays, et c'est pas propre au ministère de l'Éducation nationale, d'une façon générale, on n'arrive pas à avoir un dialogue constructif, j'entends. C'est-à-dire un dialogue où les gens retrouvent leur petit à la fin. Il ne s'agit pas de mettre en place une réforme contre les anciens. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'il n'y a aucune réforme dans ce pays, même avant les précédents gouvernements, qui est passée dans l'Éducation nationale sans que les acteurs de terrain, c'est-à-dire les enseignants et aussi les parents, adhèrent au moins à une partie de ce qui est mis en œuvre. Aujourd'hui, ce qu'on risque, quand on va passer l'épisode du bac, c'est un rythme scolaire, devoir fait, et si on, pour les plus anciens, on peut rappeler aussi d'autres mouvements qui ont été très massifs, notamment par des manifestations énormes dans Paris. Je tiens à rappeler que quand les enseignants ne portent pas une partie de ces réformes, ça ne marche pas. Donc, in fine, ce qui va se passer, c'est à la rentrée. C'est que si on n'arrive pas à trouver une solution maintenant sur construire un dialogue social digne de ce nom, à la rentrée, ça, on va être dans la radicalité. Moi, je vais finir là-dessus. Enfin, moi, quand j'entends les propos d'un ministre qui dit que les enseignants ne représentent rien parce qu'ils sont, ou la porte-parole du gouvernement qui dit qu'ils ne sont pas élus au suffrage universel, c'est pas contre ça qu'on construit un dialogue. Un dialogue, ça construit aussi en respectant les gens, et je pense que les mots ont du sens. C'est pour ça que tout à l'heure, très rapidement, je disais que nous à la FCP, on ne parle pas de prise d'otage. Parce qu'un otage, c'est quelque chose de sérieux. Il y en a un qui a fait 500 jours en Afghanistan. Et ça, c'est pas ce qui se passe en ce moment en ce pays dans les écoles.
Alors, moi, avant de parler de la rentrée, j'aimerais qu'on parle de lundi, Jean-Marc Huard, parce que Sylvain, notre premier intervenant, parlait d'une grève possible lundi. Est-ce que ça veut dire que vous allez demander encore une solution technique aux autres enseignants pour que les jurys puissent délibérer lundi.
Ce qu'il faut là, c'est aussi rassurer les élèves qui sont les élèves qui sont minoritaires, puisque encore une fois dans une majorité d'académies et pour une très très grande majorité d'élèves, les résultats qu'ils ont eus ne sont pas des résultats définitifs. Et encore une fois, les jurys, à condition que toutes les copies soient récupérées. Bien évidemment, puisque nous n'avions pas encore toutes les copies ce matin. Je sais que beaucoup sont rentrés dans la journée, mais nous n'avions pas toutes les copies ce matin. Et encore une fois, vous dites, la réforme, les professeurs n'adhèrent pas à la réforme. Là, on a 2000 correcteurs, je parle de correcteurs, sur 177 000. Bon, voilà, on a un rapport qui est quand même relativement limité.
Même si c'est limité, Jean-Marc Huard, c'est quand même la première fois qu'on est dans une situation pareille et on ne sait pas ce qui va se passer lundi. Et il y a des
élèves
qui ne savent même pas si leurs résultats sont justes. Il y en a qui vont aller à l'oral. Se trouve, ils ne peuvent même pas le passer, l'oral,
etc. Il faut rassurer les élèves. Les résultats évolueront peu. Ils évolueront peu parce qu'il y a une cohérence. Et nous demanderons au jury d'être bienveillants avec les candidats, c'est-à-dire que globalement, et pour une très très grande majorité d'entre eux, les résultats ne peuvent que s'améliorer.
Alors imaginons, un élève qui a moins de 8 et qui normalement ne va pas à l'oral de rattrapage.
Eh bien, il peut aller à l'oral.
Qui va y aller,
il peut aller à l'oral, justement. Aller à l'oral.
Le jury va faire preuve de bienveillance pour que du coup...
Si sa note, aujourd'hui il est recalé. La copie est rentrée. La copie permet justement de le faire passer au-dessus de 8. Eh bien, il sera convoqué à l'oral. Donc, il a une chance supplémentaire.
Il sera convoqué à l'oral, puisque dans le document qui a été donné aux élèves aujourd'hui avec la collante, il était indiqué que les jurys se réuniraient lundi après-midi, ce qui veut dire que des élèves vont peut-être apprendre lundi après-midi qu'ils doivent passer à l'oral mardi.
Vous êtes professeur, vous savez comme moi que cette année c'est assez inhabituel que les résultats soient le vendredi et les oraux soient lundi-mardi. Généralement c'est la veille pour le lendemain.
C'était le cas. L'année dernière c'était la veille pour le lendemain, les années précédentes il y avait le week-end entre les deux. Si, moi j'ai le souvenir d'avoir assisté aux résultats des élèves le vendredi. Et qu'ils aient eu le week-end pour préparer les oraux. Mais moi, je voudrais juste quand même revenir sur...
Non, mais je veux pas qu'on fasse croire aux gens quand même des choses qui ne sont pas. Nous sommes dans une situation dans laquelle, depuis toujours, au niveau du baccalauréat, il y a des résultats un jour et les oraux commencent tout de suite. Donc, encore une fois, je vous dis, on a des éléments positifs pour les élèves, c'est-à-dire la note peut leur permettre, alors qu'ils pensent être calés, peut leur permettre d'aller à l'oral. Ils passeront l'oral sans doute le lendemain. C'est une situation absolument... traditionnelle.
Il y a aussi des élèves qui sont convoqués à l'oral lundi, et alors qu'ils auraient pu prétendre l'avoir.
Eh bien, ils l'auront, et même s'ils passent, ils l'auront, et c'est tant mieux pour eux, c'est très positif.
C'est là qu'on voit que la situation dans laquelle ont été mis les professeurs et les élèves est particulièrement
problématique. Je suis bien d'accord,
je vous arrête là
parce
que Alain est au bout du fil et qu'il a envie d'intervenir et qu'il attend depuis 12 minutes. Bonsoir, Alain.
Bonsoir, j'ai plaisir à vous entendre directement.
Ah bah, écoutez.
Je vous écoute tous les jours, alors.
Dites-nous tout, Alain.
Je suis un vieux de 72 ans. J'ai passé deux bacs dans ma vie, parce qu'à l'époque, on a passé deux, un en fin de première et un en fin de terminale. Je me souviens de quel état de stress j'étais quand j'attendais les résultats. Et je comprends pas que s'il y a un problème quelconque entre le ministre et les enseignants, ils n'aient pas résolu le problème dans l'année. Je trouve ça invraisemblable. Les enfants, les gosses qui ont passé le bac, ils ont droit au résultat et puis être tranquilles. Moi, je me souviens dans quel état de stress j'étais. Mais Pétard, je m'avais dit en plus, oh, attendez pas, attendez un peu. C'est peut-être pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Ouais. Non, mais attendez, on est où, là?
Merci. Oui, Alain. Vous aviez une question, non?
C'est prendre un peu les gosses en otage, voilà.
Alors, merci beaucoup Alain pour cette intervention, Sophie Vénétité. Est-ce que les enseignants qui ne transmettent pas les notes n'ont pas quelques états d'âme, quelques scrupules quand même en ce moment?
C'est une action qui n'est pas bien vécue par les collègues, parce que il faut quand même rappeler que tous autant qu'on est, on est attaché à la réussite des élèves. On a passé un an à préparer les élèves au baccalauréat. On les a accompagnés toute l'année, y compris quand il y avait par exemple des bugs dans Parcoursup. On était tous là le vendredi matin à dire aux élèves, à les conseiller. Donc de la même manière qu'il a été très difficile pour bon nombre d'entre nous de faire grève le 17 juin à l'occasion des surveillances de la première épreuve du baccalauréat, il a été très difficile pour bon nombre de collègues de dire on ne va pas rendre nos notes. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est-à-dire qu'on s'est mobilisé toute l'année sous différentes formes. Il y a eu des grèves, mais pas seulement. Il y a eu des interpellations, des actions aussi avec les parents d'élèves. Nous n'avons jamais été écoutés. Nous n'avons eu que des réponses en termes de mépris, de provocation, voire de mensonges. Donc aujourd'hui, si on est dans cette situation, c'est parce que le dialogue de l'autre côté n'a pas été possible.
Qu'est-ce que vous dites pour lundi, par exemple, à la FSU, au SNES FSU? Est-ce que les gens vont refaire grève lundi? Comment ça va se passer?
Alors, nous, ce qu'on voit,
est-ce qu'il y a des consignes de votre côté?
Ce qu'on voit sortir des assemblées générales, c'est que les collègues sont en train de rendre les copies. Ça s'est passé à Bordeaux, ça s'est passé à Lille aujourd'hui. Donc, vraisemblablement, les choses vont bien se passer lundi et mardi. Après, ce qui se passe, c'est que les collègues se projettent aussi sur la rentrée, puisque la rentrée s'annonce assez difficile, aussi bien en lycée avec la mise en place de la réforme qu'en collège. On n'a pas beaucoup parlé du collège ces dernières semaines, mais il est important d'en parler, parce qu'il y a notamment une augmentation des effectifs importante en collège. Et force est de constater que l'état d'esprit des collègues aujourd'hui, c'est de dire la mobilisation reprendra à la rentrée.
Alfredo, Rodrigo Arenas.
Pas de problème, vous pouvez changer mon prénom.
Je vous ai un peu débaptisé, vous ne m'en voulez pas. L'idée que ça reprenne encore à la rentrée?
Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les réformes, ceux qui les mettent en œuvre sur le terrain sont les enseignants avec les équipes de direction, et qu'on voit bien en France que les moyens du territoire ne sont pas au rendez-vous pour les ambitions des réformes qui sont mises en place, à la fois sur le fond et à la fois sur la forme. Déjà sur le fond, il y a des vrais désaccords entre les organisations représentatives, dont la FCPE, et sur la forme, les moyens, on sait qu'ils ne seront pas au rendez-vous. Il ne s'agit pas que des enseignants, c'est tout ce qui va avec. Il y a plein de réformes qui foirent justement parce que les moyens ne sont pas là. On n'a pas réglé le problème numéro un, qui sont quand même les absences non remplacées d'enseignants. Donc ça, aujourd'hui, c'est pas réglé. Donc, vous voyez, il n'y a aucune réforme qui va tenir dans ces conditions-là. Et moi, je trouve que le ministre a fait une faute politique, d'en appeler à l'opinion publique aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que l'opinion publique, moi, je vais vous dire ce qu'a dit. Ce que nous remontent les parents, c'est que, un, on a un ministre qui fait sa tête de mule. Deux, des enseignants qui sont aux abois. Et contrairement à ce qu'on dit, il y a un sentiment de compréhension de ce qui est en train de se passer, qui nous rappelle aussi d'autres épisodes. Et que, in fine, ou tout ça, il y a les enfants qui regardent un peu, comme je disais, comme le lapin qui se prend les phares de la voiture dans les yeux et qui comprend rien à ce qui se passe. Parce qu'il faut être, c'est un débat d'initié aujourd'hui. On voit bien dans le discours qui se passe, qui est extrêmement technique. Je pense que les parents lambda, alors nous, on essaye de les informer, mais le parent lambda ne comprend rien à ce qui se passe et ne comprend pas la technicité dans laquelle on est rentré. Donc c'est pour ça aujourd'hui que nous on en appelle à des assises. C'est pas parce qu'on veut se réunir et refaire le monde. C'est simplement qu'à un moment donné, il faut savoir s'il fait la paix des braves et que oui, aujourd'hui le ministère a une responsabilité évidente sur le de ne pas avoir su trouver les clés pour pouvoir échanger avec ceux qui sont entre guillemets sous sa responsabilité, qui sont les enseignants. Et aujourd'hui, ça suffit de jeter l'invective sur les organisations représentatives, parce que quand on veut être en contact direct avec la population et qu'on flingue les organisations représentatives comme j'ai pu l'entendre dans la presse, y compris après, par rapport à la, par la porte-parole du gouvernement, eh ben, on s'expose à, des, à une radicalisation qui sera pas celle des organisations représentatives, mais qui sera celle des parents qui ne comprennent rien et qui, pensant qu'il y a un sentiment d'injustice envers leurs parents, vont aller, y compris, comme on reçoit en ce moment, de menacer d'aller au tribunal administratif parce qu'ils trouvent que le sort qui est réservé à leur enfant par rapport à l'enfant d'à côté n'est pas juste et n'est pas normal par rapport à un bac normal. On est là-dedans. On est là-dedans.
Jean-Marc, je vous donne la parole dans une seconde, mais on va d'abord passer par Lyon où Franck est en, nous attend. Il est enseignant et j'ai l'impression que lui, il est pour la réforme. C'est ça, Franck?
Exactement.
Bonsoir.
Exactement. Bonsoir. Alors moi, je suis enseignant voilà, depuis quelques années maintenant et je suis pour cette réforme puisque il y a, en fait, avant d'être enseignant, j'ai travaillé dans un paquet d'entreprises. Et en lisant cette réforme, j'ai trouvé qu'on était un peu plus en lien avec ce qui se passe dans la vie réelle. Voilà. Et d'après... Ah, je voulais aussi revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur les oraux du bac. J'ai passé mon bac il y a 10 ans et je suis allé au rattrapage. Les résultats, on les avait le vendredi et on passait les oraux le lundi. Voilà, et c'est impossible qu'un élève puisse avoir le temps de réviser en une après-midi ou en... Enfin, voilà, c'est pas possible. Donc, à l'époque, ça se passait bien comme ça et ça se passe toujours comme ça aujourd'hui, hein, d'ailleurs.
Merci beaucoup. Donc, merci Franck, vous avez rendu le sourire à Jean-Marc Huard, en tout cas, avec le début de votre intervention.
Je pense, voilà, et je ne comprends pas du tout, en fait, cette grève des enseignants qui prennent en otage, c'est vraiment le mot, des élèves qui n'ont vraiment rien fait, qui ont bossé depuis 13 ans sur les bancs de l'école et qui, aujourd'hui, se retrouvent au milieu d'une guerre. Les enseignants sont là pour les élèves.
Franck,
et non...
Il est 19h54, Franck, je crois qu'on vous a bien entendu, pardon. Mais il faut qu'on accélère parce que, bah, parce que la pendule, bah, ça tourne, voilà. Jean-Marc Huard.
Oui, moi, je voulais rendre hommage, y compris dans la période que nous vivons, hein, à l'ensemble des personnels. Je pense aux chefs d'établissement, je pense aux chefs de centre d'examen, je pense à tous les enseignants et tous les correcteurs qui ont jusqu'au bout accompagné leurs élèves. La journée d'hier, elle a été dans, encore une fois, une centaine de centres et plus de jurys, évidemment, puisque dans un centre, il y a plusieurs jurys.
Est-ce qu'il y aura des sanctions, Jean-Marc Huard, pour les enseignants qui ont refusé de communiquer les notes? Les copies, etc.
Ben, écoutez, un enseignant qui refuse de communiquer ses notes et ses copies déjà est gréviste, et le fait de rendre les copies est absolument obligatoire, donc est passible de sanctions. Voilà.
Mais, les retenues financières.
Mais la grève et la retenue sur salaire, c'est pas une sanction, c'est ce qui arrive quand on est en grève et déclaré gréviste.
Sophie Venetite, sur ce point-là.
Sur la question des sanctions et des retenues sur salaire, il faut distinguer ce qui se passe dans la réalité de ce qui est annoncé par Jean-Michel Blanquer. Il y a quelques jours, il a annoncé que, il a répété d'ailleurs à plusieurs reprises, que les collègues qui ont retenu les copies étaient passibles de 15 jours de retrait sur salaire. Ça ne correspond pas à la réalité puisque les collègues ont bien récupéré les copies, qu'ils ont même signé le bordereau où ils récupèrent les copies. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un ministre, hein, ça a été dit à plusieurs reprises, qui est aux abois, qui répond par la question de la sanction, parfois de la sanction juridique, alors qu'on attend une réponse sur le terrain politique. Il y a urgence à ce qu'on reprenne le chemin du dialogue, qu'on discute. Nous, on est prêt à le faire. On a déjà proposé à le faire. Parce que derrière, je voudrais finir quand même là-dessus, ce sont pas des enjeux, enfin, on défend pas notre situation de prof. On défend une conception du service public et une conception du collège et du lycée.
Jean-Marc Huard, je vous donne la parole dans une seconde, mais je voudrais qu'on prenne très rapidement Emmanuel à Toulouse. Emmanuel, si vous me permettez, si vous me promettez de faire très court, parce que vous êtes, vous, parent de bachelier, c'est ça?
Exactement. Bonjour. Mon fils vient de passer le bac avec la session de 2019 et moi j'ai entendu une parole qui me fait bondir quand je l'entends. C'est un professeur qui dit que c'est en pensant justement à ces bacheliers, à ces élèves qui ont passé le bac cette année, qu'ils ont pris un certain nombre de décisions de faire grève ou de traiter de prendre des décisions dans les jurys. Je trouve ça choquant parce que actuellement sans avoir ces résultats, ça met en jeu la poursuite des études, l'inscription sur les études secondaires supérieures pour ceux qui vont poursuivre des études.
Je vais vous couper, Emmanuel. Je vais vous couper. Vous m'aviez promis de faire court. Je pense qu'on a bien compris le message. Merci mille fois d'avoir appelé Jean-Marc Huard.
Oui, sur Parcoursup, la procédure se poursuit, hein, et les élèves qui sont effectivement avec des résultats provisoires ne seront absolument pas lésés. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons véritablement besoin, effectivement, d'organisations représentatives, à la fois fortes, représentatives, participative et aussi ouverte au dialogue. Et le dialogue, encore une fois, il est, je crois, tout à fait nécessaire pour avancer.
Vous dites ça, mais quand on vous entend, mais ouverte au dialogue. On voit bien que ça colle pas, Sophie Benedictité.
Ouais, c'est des paroles qu'on.
Et je vous demanderai de conclure parce qu'on arrive à la fin de cette émission.
Qu'on est heureux d'entendre. Moi, je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit. Vraiment, je voudrais insister sur le fait que si on est arrivé dans cette situation-là, c'est parce qu'on a été poussé à le faire, parce que nous n'avons pas été écoutés pendant des mois et que ce qu'on porte, c'est aussi des questions d'avenir du service public.
Est-ce que vous êtes d'accord tous pour dire quand même que le bac sort affaibli de cette séquence qu'on vient de vivre là ?
En tout cas, je pense qu'on fait. En tout cas, c'est notre cas. On félicite quand même tous les bacheliers qui ont eu le bac cette année, parce que ça a été un vrai parcours du combattant toute l'année, pas seulement les sons du bac. Mais en tout cas, pour l'instant, vous aurez compris que nous, on veut bien jouer les casques bleus dans cette histoire-là. Mais faut pas pousser mémé dans les orties. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on est les parents, c'est nos enfants dont on est en train de parler, et que si le dialogue social de façon constructive, c'est-à-dire on fait un pas les uns vers les autres, ne se met pas en place, on va sortir de notre réserve un peu plus durement que ce qu'on fait actuellement. Vous savez, moi, j'ai été président de la FCPE en Seine-Saint-Denis pendant longtemps. Sur les absences non remplacées, on est occupé de 300 écoles. Et c'est comme ça qu'on a fait bouger le gouvernement d'avant. Donc il n'est pas exclu qu'on change de méthode si jamais les enseignants et le ministère ne se mettent pas d'accord sur une solution pacifique et constructive pour nos enfants.
Merci beaucoup Rodrigo Arenas, merci Sophie Benedictité, merci Jean-Marc Huard. Merci. Franchement, le bac affaibli à l'issue de cette séquence.
Non,
vous avez 10 secondes,
voit,
pas plus.
On voit que le bac est une très très grosse organisation. Le bac 2021 avec 4 épreuves terminales voilà, permettra inévitablement d'avancer et d'avoir un processus moins lourd.
Merci à tous les trois d'être intervenus ce soir et d'être venus ici à France Inter. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Pierre Dessertaine, Emma Ferret, Mathilde Sour à la réalisation ce soir, Claire Destacan à la technique, Henri Bérec et Tiffany Battistel.